Alors, si vous le voulez bien, puisque nous nous sommes déjà préparés dans la prière communautaire à cet enregistrement, j'aimerais peut-être reprendre au tout début de ce partage l'hymne de l'office des lectures du quatrième vendredi. Cet hymne qui invite l'Esprit Saint à nous visiter me paraît des plus appropriés à ce moment-ci. Alors recueillons-nous un moment et relisons ensemble ce que nous trouvons au bréviaire. Retournons-nous. Voici l'Esprit du Seigneur au vent de la nuit qui passe au monde. Accueillons-le. Ne craignons rien. À la croisée de nos chemins, laissons-nous couvrir de son ombre. N'allions-nous pas d'ailleurs, nous desséchant dans nos lois de chair et de sang, à perte d'être? Hébergeons-le. Nous renaîtrons. Car Dieu travaille au plus secret. Sa lumière luit toujours aux ténèbres. Ouvrons la fente de nos cœurs et voyons celle du Seigneur, l'arbre de vie. Rapprochons-les, restons greffés, buvons la sève désormais dont la plaie du Christ est remplie. Et son esprit brise les joints avec l'arbre mort du jardin de sève humaine. Ne manquons pas ici le bon des derniers temps de création où l'amour de Dieu nous entraîne. Ne rompons pas nos nouveaux liens. Nous croîtrons avec l'Esprit Saint jusqu'à cette heure du Fils de l'homme éblouissant par tous les hommes de son sang qui l'auront choisi pour demeure. Bien chers confrères ici présents et bien chers confrères avec qui j'aurai le plaisir de partager cet enregistrement, bonjour et bon après-midi. Que le Seigneur et sa paix profonde soit avec vous. Si vous me le permettez, j'aimerais faire rapidement quelques remarques préliminaires. Je vous invite d'abord, et je vois que plusieurs ont déjà le document en main, à prendre connaissance de ce texte qui vous a été distribué et qui est intitulé « Un paratonnerre à 10 branches ». Il s'agit là, comme vous l'arrivez de constater, d'une série de 10 précautions oratoires qui s'appliquent à toute la série de mes interpellations fraternelles en Église à partir d'aujourd'hui. Cette série de précisions me paraît utile, même si chacune d'elles et vous le constaterez à la lecture, chacune d'elles va sans dire, je juge indispensable et plutôt prudent de les expliquer ou de les exprimer clairement avant chacune des interpellations en cause. Veuillez donc en prendre connaissance sans tarder. Nous pouvons même suspendre cet enregistrement. Ce paratonnerre à 10 branches vous dira clairement, dès le point de départ, à quoi vous attendre et à quoi ne pas vous attendre. Deuxième remarque, avant d'écouter ces cassettes, si ce n'est pas déjà fait, je vous suggère fortement de prendre également connaissance de 2 documents déjà en circulation depuis le mois d'août. Il s'agit de ma lettre fraternelle et publique en date du 15 août 1984, qui a été adressée à tous les archevêques et évêques du Canada, ainsi qu'à leurs collaborateurs et collaboratrices immédiats, au niveau de la Conférence des évêques catholiques du Canada, la CECC, où j'ai travaillé moi-même durant 17 ans, de 1958 à 75, ainsi que la petite brochure d'une quarantaine de pages, parue à la même date et intitulée « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage ». Je me rends compte que certains les ont en main. Ces deux documents situeront sans équivoque, pour vous, l'origine, l'esprit, le sens et la portée, pas seulement de ces cassettes adressées aux prêtres, mais de toutes les autres initiatives en cours ou à venir dans la poursuite de cette mission pastorale, prophétique et communautaire en Église. Vous constaterez, c'est indiqué d'ailleurs à l'intérieur de la page couverture de la brochure, que ces documents sont distribués gratuitement. Et pour ceux et celles qui ne voudraient se les procurer, bien, vous avez là l'adresse où il faut écrire pour se les procurer. C'est aux éditions Pax Vobis. Casier postal 1130, succursale Pointe-Claire, Pointe-Claire, province de Québec, H9S 4H9. En troisième lieu, mes chers amis prêtres, je n'ai pas besoin de vous faire ici un dessin spécial en couleur pour vous démontrer que l'initiative que je prends aujourd'hui est plus que délicate et loin d'être facile pour moi. On dit couramment, et non sans raison, « Nul n'est prophète dans son pays ni parmi les siens ». Alors, pour moi, oser m'adresser directement à mes confrères dans le sacerdoce, partager avec eux, en une certaine manière, le plus intime de ma vie sacerdotale actuelle, aller jusqu'à nous interpeller tous ensemble à passer du bien que nous faisons et du bon que nous sommes, Dieu merci, à du meilleur, exige, vous en conviendrez sûrement, plus que du culot, de l'audace ou du courage, mais cela requiert une motivation mûrie, irrésistible, et au moins l'impression d'accomplir une œuvre utile. Or, mes chers confrères, je crois sincèrement éprouver présentement les deux, et c'est pourquoi je plonge. Je crois en effet que je serais un mauvais riche au sens de l'Évangile si je me refusais à partager avec vous, bien simplement, clairement, à cœur ouvert, ce que nous, quelques milliers d'autres et moi-même, avons eu la chance inouïe et la consolation profonde de découvrir et de vivre à fond, en Église, au cours de la dernière décennie, donc depuis 1975. Et je crois en outre, et je le sens à l'intime de mon être, que plusieurs des éléments de notre expérience spirituelle peuvent venir à temps et à point dans la vie de plusieurs d'entre nous, confrères ou consœurs, pasteurs ou pasteureux, si vous me le permettez, d'âme. Mes chers amis, je m'adresse à vous. Quel que soit votre état d'âme actuel, Que vous soyez personnellement prêtre pleinement heureux ou non, comblé ou pas par votre ministère, je m'adresse à vous, quelle que soit votre fonction ou l'étape présente de votre cheminement spirituel. J'irai même jusqu'à dire, ce partage, je veux le faire avec vous, que vous vous sentiez en paix ou non présentement avec le Seigneur, en état de crise ou non avec l'Église et ses personnes en autorité. Je veux en toute simplicité, avec tout mon cœur, m'adresser à tous les prêtres, par-delà toutes ces variantes ou variables, et rejoindre celui qui un jour, comme moi, a opté en toute ferveur et liberté pour accéder au sacerdoce de Jésus-Christ. Mes amis, le Charles Mathieu qui partage avec vous aujourd'hui le plus intime de lui-même, croyez-moi, ne se sent nullement supérieur à qui que ce soit. Mais simplement, et je l'avoue, heureux et chanceux d'avoir pu s'accorder près de 10 ans de recul et d'ermitage auprès du Seigneur pour chercher à comprendre ce qui nous, ou lui manque au juste, à l'Église d'aujourd'hui. Le style de cette interpellation sera donc, vous aurez trop fait de le constater, celui de la conversation modeste, de la confiance amicale, marquée au coin d'autant de simplicité et d'humilité qu'il sera possible de ma part. Je ne viens pas, soyez-en assurés, sermonner, moraliser, endoctriner ou bousculer. Ce n'est d'ailleurs pas mon genre, et je me sens trop avancé d'ailleurs en âge pour en prendre la mauvaise habitude. J'ajouterai enfin, en terminant ce déjà trop long préambule, que ce partage n'a pas l'intention d'être didactique, académique, méthodique, d'être savant ou persuasif. Il se veut tout au plus intéressant et valable, utile, je l'espère, et à suivre éventuellement. Alors, si vous le voulez bien, mettons-nous à la besogne et amorçons ce partage. Pour bien amorcer cette conversation fraternelle, j'ai pensé partir non pas d'une théorie ou d'une hypothèse ou d'un énoncé de principe, mais plutôt de la réalité, d'un événement concret que nous venons tous de vivre intensément au Canada, à savoir la récente visite pastorale de Jean-Paul II, du 9 au 20 septembre dernier. Et j'aborde ce thème au point de départ car je suis convaincu qu'il nous faut ensemble aller tirer l'enseignement essentiel et providentiel que le Seigneur a voulu vraiment nous donner par le passage de son vicaire parmi nous. Disons d'abord, et je pense que la majorité des Canadiens en conviennent facilement, ce séjour de Jean-Paul II au Canada a été un indéniable grand succès. Depuis quelques jours, les masses médias nous ont mis sous les yeux la question du déficit financier, ce qui risque de jeter un peu d'ombre sur le beau souvenir que nous avons gardé, mais à mon avis, c'est mineur. Et c'était un peu à prévoir, car ce n'est pas un genre d'initiative qu'on est habitué à budgéter, et alors qu'on ait sous-estimé certains revenus ou surestimé d'autres, c'était inévitable. Mais selon moi, ça demeure le meilleur investissement financier de toute l'Église canadienne et de l'Église du Québec en 50 ans. Ce succès, j'en suis personnellement convaincu, était prévu et prévisible à coup sûr. J'ai été moi-même un peu déçu par les hésitations même de certains ecclésiastiques qui se demandaient si cette visite allait être acceptée, agréée, accueillie favorablement par les fidèles. Nous ne sommes pas nombreux ceux qui ont couru le risque de prophétiser, au contraire, longtemps à l'avance, que ce voyage serait, dans la foi, un grand succès spirituel. J'ai enregistré des cassettes intitulées, des émissions de télévision intitulées « Le qui, que, quoi donc » du voyage de Jean-Paul II au Canada à la fin de janvier, donc au-delà de 6 mois avant. Et je n'ai pas hésité à dire que nous devions être assurés de ce succès. Je l'ai écrit dans la brochure « Église évangélistoi », de même, également dans la lettre aux évêques. Et quand on relit, après coup, les élucubrations fantaisistes de certains de nos soi-disant penseurs religieux, qui, des mois et des semaines d'avance, nous mettaient en garde contre tous les malheurs possibles, les déceptions probables, quand on relit ça après coup, on a parfois le goût de sourire et d'autres fois le goût de rugir. Sur quoi au juste, car quelques-uns me l'ont demandé, j'avais fondé l'assurance de mes prévisions quant au succès de ce voyage de Jean-Paul II? Eh bien, sur deux choses très simples. La première, c'est que je suis convaincu que notre peuple se meurt encore de faim et de soif pour de l'authentique spirituel. Pendant cette décennie au cours de laquelle j'ai eu le temps d'observer ce qui se passe en Église, je me suis convaincu hors de tout doute que nos gens n'ont pas perdu la foi, mais plutôt l'espérance, la confiance en leurs leaders et par voie de conséquence en leurs semblables, en eux-mêmes et en Dieu. La foi chez nous est engourdie, c'est vrai. Elle risque de se perdre. Mais les siècles de chrétienté que nous avons connus au Canada et au Québec l'ont solidement enracinée. Et elle n'est pas prête de se laisser déraciner. Je suis toujours surpris de trouver, même chez les jeunes, malgré leur ignorance religieuse, malgré qu'on les ait sevrés depuis 20 ans d'une réelle éducation chrétienne, de retrouver des comportements, des réflexes, des aspirations de croyants qui s'ignorent. Et c'est un vrai miracle. J'aurai l'occasion en janvier prochain d'interpeller ces jeunes. Car je suis sûr que la partie n'est pas perdue, au contraire. Ils se préparent un avenir spirituel et religieux pour eux, hors de tout doute et exceptionnel. Je dirais même, mes chers amis, que la faim et la soif du peuple, des fidèles chez nous, est plus grande que jamais. Même malgré nous, prêtres et pasteurs. Les gens veulent du pur, de l'authentique, de l'exigeant. On leur sert, hélas, trop souvent de l'écrémé, du frelaté, du succédané, sous prétexte de s'adapter à eux et à elles. Ces derniers 10 ans, je m'en suis convaincu à fond, les fidèles demeurent sur leur faim et soif du Seigneur des Seigneurs. Et c'est là, à mon avis, une des grandes causes des désertions nombreuses de l'Église à l'heure actuelle et de ses élans vers les sectes et les cultes. Les gens vont ailleurs parce que, hélas, trop souvent, nous ne leur donnons pas tout ce qu'ils désirent recevoir. La deuxième raison pour laquelle il me paraissait sûr et certain que le voyage pastoral du pape allait être un succès, c'est que je savais que Jean-Paul II est de toute évidence un homme du Seigneur, de bord en bord, j'oserais dire d'un bout à l'autre de sa vie. Il ne fallait donc pas une boule de cristal ou un charisme spécial pour prédire l'explosion. Le baril de poudre, c'était la faim et la soif des fidèles. L'allumette, Jean-Paul II, au feu sacré. Et quand les deux se sont rencontrés, on pouvait s'attendre à ce qui est arrivé. Vous savez, l'intérêt du peuple pour le pape, ça n'a pas été le fruit mûr de notre Église canadienne ou québécoise. Ça n'a pas été non plus le fruit de notre organisation qui a été, paraît-il, et chapeau bas devant les organisateurs, qui a été excellente, impeccable. Ce n'est sûrement pas le fruit de notre préparation ou de notre prédication des dernières semaines ou des derniers mois, laquelle a été, avouons-le entre nous, plutôt timide. Plutôt prudente. L'explosion s'est déclenchée, dessinée et décidée dès l'aéroport de Québec. Quand l'allumette, cet homme de feu, est apparu au milieu de nous. Grâce à la télévision, son magnétisme spirituel a pris le chemin des cœurs de tous les Canadiens. Et vous le savez comme moi, il a touché durant son séjour, pas seulement les croyants et les fervents, mais même ceux qui ne pensaient pas et ne pensent pas encore comme lui. Et ça, c'est un tour de force. Nous devons avouer notre courte honte que souvent dans notre ministère, nous ne réussissons pas à toucher même ceux qui pensent comme nous. Lui a réussi à rejoindre au fond du cœur, par la grâce du Seigneur qui passe à travers lui de toute évidence, même ceux qui encore aujourd'hui ne partagent pas telle et telle de ses options pastorales. Le fruit donc le plus éclatant, la leçon la plus grande qu'il ne faut pas rater, c'est que son passage parmi nous suscite une profonde remise en cause de nos façons de procéder, soi-disant post-conciliaires. Donc de tout ce qu'on a mis de côté, sous prétexte que les gens n'en voulaient plus, et tout ce qu'on a établi à la place, sous prétexte de mieux s'adapter aux besoins modernes des gens. Tout cela doit être remis en cause. J'ouvrirai ici une parenthèse et je dirais que le pape Jean-Paul II a même remis en cause les techniques de l'audiovisuel qui recommandent de ne pas toujours montrer les mêmes images à la télévision, que les gens se tannent, que les gens deviennent plus ou moins intéressés s'ils revoient toujours la même scène. Or, je serais curieux de calculer le nombre d'heures et d'heures et d'heures où le peuple canadien est resté assis devant les appareils de télévision à revoir le même faisant les mêmes gestes, debout dans sa pape mobile. Bénédiction à gauche, bénédiction à droite, à droite, au milieu, à gauche et à droite. Et pourquoi sommes-nous restés fixés devant cette scène qui s'est répétée, qui ne changeait pas? Pourquoi? C'est parce que ce qui émanait de lui était valable, perceptible, ressourçant. On se sentait un peu, en le regardant, comme des appareils électroniques mis en recharge, comme des batteries, des rasoirs, des appareils électriques qu'on met là pour recharger la batterie. On était devant lui et ce qu'il vivait, ce qu'on percevait à travers lui, nous a rechargés, rechargés et ressourcés. Et j'en causais avec quelques personnes, non seulement on sentait qu'il nous rechargeait, mais si on était le moindrement attentif et habitué au discernement spirituel, on pouvait voir le Seigneur en train de ressourcer Jean-Paul II, physiquement, psychologiquement. Dans des moments, on sentait là que c'est comme si le pape venait de vivre 5-6 heures de sommeil. Il se ressaisissait et continuait sa route. Et c'était beau à voir. Et quand je dis qu'on sentait que quelque chose émanait de lui, je devrais dire plus, avec plus de justice, quelqu'un émanait de lui. Et en fait, quoi au juste? Il ne faut pas se contenter de dire que le pape nous a impressionnés par ce qu'il est, mais essayons de retracer qu'est-ce qu'il est et est devenu sous nos yeux. Eh bien, on n'a pas à se casser la tête, allons voir dans les épîtres de saint Paul aux Galates, au chapitre 5, versets 22 et 23, les 9 fruits de l'Esprit. On voyait à travers Jean-Paul II l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On sentait vraiment que ces fruits-là étaient mûrs et ces fruits-là se manifestaient constamment. Or, qui dit fruit, dit arbre en santé. Et qui dit arbre en santé, dit sève de l'esprit. Je pourrais d'ailleurs élaborer longtemps, encore beaucoup plus en détail, sur le succès du voyage de Jean-Paul II, mais je m'arrête ici. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir dans un autre enseignement sur cassette. Mais j'en arrive au point important. Jean-Paul II a réussi, pas seulement par ce qu'il a fait et dit, mais d'abord et surtout par ce qu'il est, et je dirais, il est devenu sous nos yeux. Un pasteur d'une très haute qualité spirituelle en qui le Seigneur est visiblement tout à fait à l'œuvre jour et nuit. Et parce que le Seigneur est tout à fait à l'œuvre en lui, lui le devient en tout et en tous. La vraie source du magnétisme spirituel de Jean-Paul II, c'est son, avec un S majuscule, son magnétisme à lui, au Seigneur. On dit en philosophie, ab esse ad posse valet illatio, c'est-à-dire que quand il existe quelque chose, on peut conclure à la possibilité de cette existence. Alors, si cela existe en quelque part, en quelqu'un, il nous faut donc retenir que c'est possible. Et si c'est possible pour le premier et le plus important pasteur de l'Église, cela devrait être possible pour chacun des autres pasteurs de l'Église. Et ici, alors, j'affirme, en terminant cette première réflexion, ainsi le veut le Seigneur pour nous tous. Ainsi le fait le Seigneur pour chacun de nous qui le désire, le demande et l'accueille. C'est lui qui en assume la tâche et le succès. Mes chers amis, ce que j'ai voulu partager avec vous dès le point de départ, c'est donc qu'il n'y a aucune raison pour laquelle tous les pasteurs et les fidèles en Église ne seraient pas, eux aussi, de vrais récepteurs et transmetteurs du Seigneur à l'œuvre dans son peuple et dans le monde. Il ne s'agit pas d'un privilège qui a été donné exclusivement à Jean-Paul II. Mais Jean-Paul II est venu, par son exemple vivant, rehausser nos standards d'Église, et on peut et doit dorénavant exiger de tels pasteurs. Ne l'oublions pas, Jean-Paul II n'est pas devenu ce qu'il est par ses propres moyens à lui, si grand que soient ses aptitudes personnelles humaines. Mais il est devenu ce type de pasteur par son action à lui, au Seigneur, en ce serviteur qui lui a tout abandonné et lui a abandonné tout le monde. Cette énergie spirituelle divine, débridée en lui, s'est emparée de ses ressources humaines à tout point de vue, les a multipliées, restaurées, dynamisées, et les a rendus, nous l'avons constaté, éminemment efficaces et percutantes. Si vous me le permettez maintenant, avant de passer au partage à proprement dit de notre vécu, à celui de notre équipe, de ces milliers de personnes et le mien, j'aimerais passer rapidement à une deuxième réflexion qui part de la réalité elle aussi. Il faut bien l'admettre, à notre courte honte, les vrais de vrais pasteurs de la trempe spirituelle de Jean-Paul II ne courent pas les rues. Il y en a, et vous en connaissez autant que moi, mais ils sont très rares, beaucoup trop rares. En tout cas, si la demande est grande, l'offre actuelle ne suffit pas en Église d'aujourd'hui. Alors, comment pouvons-nous nous expliquer cette disette? Et cela m'amène à partager avec vous ce que je crois sincèrement en être une des grandes causes. Chers confrères, selon moi, avec les meilleures intentions au monde, et sans trop nous en rendre compte, nous investissons encore trop exclusivement notre temps, nos efforts, nos ressources, nos recherches, nos études, à la mise au point surtout de nos pastorales et pas assez à la mise au point de nos pasteurs. Depuis Vatican II, on a fait des efforts et obtenu des résultats extraordinaires et admirables pour repenser notre méthode d'approche au monde, de présence au monde. Fort légitimement et fort heureusement, on s'est appliqué et on s'applique encore à chercher les meilleurs moyens pour transmettre la bonne nouvelle à toutes les catégories de fidèles et à s'adapter à tous les genres de situations. On a donc développé des pastorales en veux-tu en v'là pour tous les besoins, selon tous les goûts, pour les fous comme pour les sages. Applaudissons-nous, tapons-nous dans le dos les uns les autres, et bravo au cube. Mais hélas, malgré d'heureuses exceptions, car il ne faut pas généraliser, on n'a pas investi proportionnellement autant de temps, d'efforts, d'exigence, de réflexion, de session, à hausser de façon continue la qualité d'être spirituel des pasteurs eux-mêmes. Autant en Église, on a vu à stimuler les études et les recherches concernant les pastorales, à y associer et à consulter les intéressés, puis à décréter et superviser l'application des dites pastorales, autant, pour 36 soi-disant bonnes raisons, on n'a pas voulu trop intervenir sur le plan des personnes, appliquer, ou appeler plutôt, à appliquer ces pastorales. Est-ce par souci démocratique? Est-ce parce qu'on l'a pris pour acquis? Est-ce un désir de respecter les personnes? Un vote de confiance au prêtre? À mon avis, on a beaucoup trop laissé tout cela entre les mains de chacun. Et on se trouve aujourd'hui, du moins, c'est l'impression que j'ai, grosso modo, avec des pastorales de haute qualité. Et c'est là notre force. Et des pasteurs de qualité variable et variée, discutable et discutée. Et c'est là qu'est notre faiblesse. Or, ici encore, il ne faut pas une boule de cristal ou un charisme spécial de prophétie. On le voit bien, on le sait bien, les plus belles pastorales donnent et donneront très peu ou rien entre les mains de pasteurs inadéquats ou quelconques. C'est dans le domaine des sacrements, ce qu'on appelle en théologie l'ex opere operato, qu'on pense pour le pasteur qui est inadéquat, parce que l'Ecclésia supplète, l'Église supplée au manque de qualité de celui qui administre le sacrement, mais n'en prive pas ceux qui reçoivent le sacrement. Quand on arrive dans les autres domaines, celui de la pastorale sur le terrain, la prédication, le témoignage, l'exercice du leadership et de l'autorité, l'ex opere operantis, c'est-à-dire la qualité de l'opérateur, devient dans ces cas joliment importante, pour ne pas dire primordiale et indispensable. Revenons rapidement à Jean-Paul II. On aurait beau produire les mêmes textes, les prononcer avec les mêmes gestes et la même éloquence, organiser des rencontres de foule sous le leadership d'un pasteur qui aurait les mêmes regards, les mêmes sourires, la même bienveillance. Mais si tout cela était fait par un autre pasteur, plus ou moins branché sur le Seigneur, non seulement cela ne produirait rien de semblable, mais pourrait même, hélas, produire un contre-témoignage. Ici encore, je m'arrête parce qu'on pourrait épiloguer longuement là-dessus. J'aurai l'occasion d'enregistrer très bientôt un enseignement intitulé « Où sont exactement la force et la faiblesse actuelle de notre Église post-conciliaire ?» Et là, à la lumière d'une comparaison moderne qui a été priée et discernée, m'inspirant de la production hydroélectrique, j'illustrerai ce qui est notre grave lacune et, par ailleurs, notre force déjà acquise depuis Vatican II. Je pourrais résumer tout cet enseignement en vous livrant ce que les Anglais appellent la punchline. Tout cela démontrera que notre force en Église